Bonsoir, comment allez-vous? Parler à son enfant intérieur, pardonner à ses ancêtres, noter ses rêves, croire en soi, au ciel, aux autres, s'ancrer à la terre, comprendre la physique quantique, on s'en donne du mal pour se faire du bien. Tiens, j'ai oublié le lâcher prise dans ma liste de bonnes choses. Nous ne vivons plus en ayant les croyances de nos parents, qui eux, suivaient celles des leurs. Nous sommes sortis de cette prison psychologique. Seulement, être un humain libéré n'est pas si facile. Ne laissons pas tomber, ne soyons plus si fragiles. Pour ça, Sabrina Philippe a écrit chez Flammarion un petit manuel de navigation pour l'âme. Pas de méthode 21 jours, pas de trouvailles du siècle, manger cru, boire tiède, méditer le mardi, psalmodier des prières inuites, acheter un diffuseur de lumière d'Amazonie, demander à sa mère de vous raconter sa nuit de noces, en faire un dessin, le poster l'univers, visualiser des dollars en mâchant des graines de courge, croire au Vélib. Intelligent et clair, ce livre vous évitera d'en acheter 30 autres.
Je m'appelle Julia, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi nous vivons sur Terre. Est-ce qu'on a une mission? Merci, au revoir.
Merci à toi, Zélia. Pourquoi nous vivons sur Terre? Est-ce qu'on a une mission, Denis Marquet? Demande Zélia.
Ah, Zélia, c'est une excellente question que tout le monde se pose. Nous ne savons pas pourquoi nous vivons sur Terre. Il faut accepter de ne pas le savoir. C'est à chacun de se faire sa propre idée sur la question en fonction de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et nous ne savons pas non plus si nous avons une mission. Peut-être, certains le croient, y a-t-il un Dieu qui nous a créés pour une tâche particulière et que nous avons quelque chose à faire de particulier dans cette vie. Mais si c'est le cas, nous l'avons oublié en général. Certains prétendent que nous pouvons nous en souvenir, certains prétendent s'en souvenir. D'autres affirment que tout ça, c'est une illusion et que notre existence n'est due qu'au hasard. C'est à chacun de se faire sa propre idée en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de qui il est. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que chaque être humain est un être unique. Ça, c'est certain parce que dès qu'on aime vraiment quelqu'un, on le constate. Lorsque nous avons perdu quelqu'un de cher, par exemple, eh bien nous faisons l'expérience qu'il y avait en cet être quelque chose d'absolument irremplaçable. Cela qu'il était vraiment et que personne d'autre n'est. Lui-même comme être unique, et c'est cela, cette dimension-là qui nous manque. Et malheureusement, parfois, il faut être en deuil pour prendre conscience qu'on avait affaire à un être unique. Heureusement, dans beaucoup de cas, on ressent l'être unique qu'est l'autre, et en le ressentant, on s'aperçoit que c'est le plus beau des cadeaux, d'éprouver qui est cette personne, d'être en relation avec cet être unique. Et du coup, moi je dirais que si on a une mission sur Terre, elle ne peut consister qu'en une chose, c'est de vivre au maximum et de donner au monde et aux autres l'être unique que nous sommes. Être pleinement soi-même, en quelque sorte. C'est une mission parce que c'est un chemin, ça demande tout un chemin de vie, tout un travail intérieur. Je crois qu'il est important de se convaincre que c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire aux autres. Parce que c'est un cadeau que nous seuls pouvons faire. Il n'y a que nous qui pouvons donner aux autres, rayonner, manifester l'être unique que nous sommes. Et je crois profondément qu'il faudrait éduquer les enfants avec un seul objectif, celui de les convaincre que l'expression de l'être unique qu'ils sont, c'est leur mission sur Terre.
Denis Marquet, vous dites qu'on est digne d'être aimé parce qu'on est unique, on est aimé pour ce côté unique, et j'ai l'impression que les enfants et les adolescents, ils aiment quelqu'un qui correspond justement peut-être au plus grand nombre. On n'aime pas celui qui est unique, on aime celui qui est comme les autres.
Il y a les deux en nous, mais c'est deux besoins complètement distincts, en fait. Prenons un adolescent, il va aller, par exemple, dans une tribu quelconque. La tribu, c'est ambigu. Il y a à la fois une différenciation par rapport à la masse, et en même temps, à l'intérieur de la tribu, il faut être comme les
semblables.
Autres. Semblables. Oui. C'est-à-dire que dans la tribu, qu'est-ce que cherche un adolescent? Il cherche à concilier, d'une manière très provisoire, parce que ça peut pas suffire, deux aspirations qui sont un peu contradictoires et qui on a du mal à concilier. La première, c'est de vivre l'être unique qu'il est. Dans l'adolescence, c'est surtout en se différenciant, donc par rapport aux autres, qu'on cherche à vivre l'être unique qu'on est, et en même temps, celui d'être accueilli et intégré au monde. C'est la double problématique que j'appelle celle de l'intégration d'un côté, s'intégrer au monde, et de l'intégrité de l'autre, être vraiment soi. Être dans une tribu, être dans un groupe, ça peut être confortable, mais c'est pas une solution définitive à cette problématique. La solution définitive, elle existe peut-être jamais, parce que s'intégrer pleinement au monde tout en exprimant l'être unique qu'on est, c'est une tâche illimitée. Je crois que quand on éduque un enfant en l'encourageant à vivre ça et à être lui-même, on contacte son vrai désir et c'est le vrai désir qui permet à un être d'être au maximum de ses potentialités.
Denis Marquet est philosophe et thérapeute. Il a écrit « Nos enfants sont des merveilles » chez Marabout et puis tout récemment chez Point Vivre, « Le testament du rock ». Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons si on peut trouver des pierres précieuses sur le sol, comme ça, en se promenant. Pourquoi il y a un côté de la Lune qu'on ne voit jamais? Et si on peut retrouver l'odorat après l'avoir perdu?
Bonjour madame, j'ai bientôt 7 ans, je m'appelle Hugo et je voudrais savoir si on peut toucher un arc-en-ciel et se rendre à son pied. Au revoir madame.
Pour trouver un trésor, peut-être. Bonsoir Hugo, je m'appelle Noël et j'ai proposé ta question à Emmanuel Bocri, prévisionniste à Météo France. Alors, le pied de l'arc-en-ciel.
Bonjour Hugo, alors malheureusement, je vais te décevoir, tu ne pourras jamais atteindre l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène optique, c'est de la lumière qui traverse le soleil, qui va taper dans les gouttelettes d'eau de pluie qui est en train de tomber et qui va nous revenir dans notre œil en décomposant la lumière. Et si on regarde bien, on va trouver les fameuses 7 couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. En réalité, c'est un peu une tricherie. Ça, c'est Newton qui avait indiqué ces 7 couleurs. Il y en a beaucoup plus. Il y a à peu près 150 couleurs.
Ah, 150.
Elles sont complètement en décalé. Alors, Hugo, je t'ai un peu déçu, mais en même temps, je vais te dire que tu peux fabriquer toi-même ton arc-en-ciel. Alors, il faut que tu sois avec tes parents. Tu fais la chose suivante, surtout en été. Tu tournes le dos au soleil. Tu prends un tuyau d'arrosage, tu le pinces et tu envoies le jet d'eau devant toi. Ça va faire une pluie. Et si tu regardes bien, tu vas voir apparaître le fameux arc-en-ciel. Et si un jour tu as la chance de voir un arc-en-ciel complet, c'est un petit peu compliqué, mais quelquefois, on voit le demi-cercle avec les fameuses 7 couleurs, en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais si on regarde bien, on se rend compte qu'au-dessus de ce cercle, il y a un autre cercle, les couleurs sont inversées. Et si on a encore beaucoup plus de chance, c'est plus difficile, entre les deux arcs-en-ciel, on voit qu'il y a une zone sombre, c'est ce qu'on appelle la bande sombre d'Alexandre, c'est un nom qu'on lui a donné. Et si on a encore plus de chance, en dessous du premier arc-en-ciel, on va voir des bandes vertes et violacées s'alterner les unes derrière les autres. C'est très rare de les voir, mais on peut les voir de temps en temps. En général, on voit le principal arc-en-ciel qui va du rouge à l'extérieur vers le violet à l'intérieur du cercle. Et si on a un peu de chance, on voit le même arc-en-ciel, mais inversé au-dessus. Donc malheureusement pour Hugo, il ne pourra pas aller au pied de l'arc-en-ciel.
Sauf s'il se le fabrique, ça sera à ses pieds finalement.
Voilà, ça sera à ses pieds.
Emmanuel Bocri, Flora se demande pourquoi elle n'en a jamais vu, elle, deux arcs-en-ciel avec tout ce que vous venez de raconter, parce que c'est rare.
En réalité, il faut avoir un très beau rideau de pluie bien uniforme. Et là, quand on a un grand rideau de pluie bien uniforme, en général, on voit apparaître les deux arcs-en-ciel. Mais pour le voir bien, il faut voir un rideau de pluie, tourner le dos au soleil. Si vous tournez pas le dos au soleil, Noël, ça sera un peu de travers, on verra pas très bien. Il faut tourner le dos au soleil et là, on verra bien les deux arcs-en-ciel apparaître. Si on prend le temps, si on voit en général le premier arc-en-ciel bien net, on va voir le deuxième apparaître au-dessus un petit peu moins puissant. C'est normal parce qu'on voit un peu mieux. Et par contre, les bandes en dessous, à l'intérieur du premier arc-en-ciel, le vert et le violacé, c'est beaucoup plus difficile. On les devine un petit peu, ça dépend, c'est un peu le hasard.
150 couleurs à un arc-en-ciel, quand même, c'est beau, hein? Emmanuel Bocri est ingénieur météorologiste.
Nous danserons dessous les bombes, derniers adieux à l'autre monde, dans nos uniformes noirs et or, sur le dance floor.
un ultime bras d'honneur, sans les médailles et sans les fleurs, nous chanterons.
Voilà, c'était le cru 2018 d'Étienne Dao après le Blitz.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des savants et des savantes pour leur répondre. Le docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel est médecin ORL, phoniatre, psychologue et phonéticienne.
Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 9 ans. Et j'aimerais savoir si on peut être privé de son odorat comme on peut être privé de sa vue ou on ne peut pas écouter. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Anaya, merci pour ta question. Docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, vous êtes ORL. Alors Anaya demande si on peut être privé de l'odorat, de la vue, de l'ouïe.
Oui, on peut être privé de son odorat et c'est bien embêtant. C'est bien embêtant parce que quand on est privé de l'odorat, on est privé aussi d'une grande partie du goût. Et plus rien n'a de saveur, c'est le cas de le dire. Alors non seulement on sent pas si c'est brûlé, mais aussi si les gens sentent bon ou pas bon, mais on sent pas le goût des aliments, parce qu'il y a une partie du goût qui se fait par les molécules, on va dire les molécules odorantes, et ça remonte par l'arrière du nez aussi. On sent par l'avant et par l'arrière du nez.
Mais qu'est-ce qui peut priver de l'odorat par un gros rhume et ses passagers ?
Ah ben, un accident. Un accident, et l'odorat se fait par le nerf olfactif qui est tout en haut, juste derrière les yeux, derrière les sourcils d'ailleurs. Hein, c'est une petite plaque et où il y a une communication presque directe avec le cerveau, avec le bas du cerveau. Et on a le bulbe olfactif qui est là et ça peut être cisaillé par des fractures. Et j'en ai même vu dans mon entourage. Et ça cause des dommages qui sont très désagréables parce que la personne, je peux vous dire vraiment ça, elle n'a plus le goût à la vie.
Est-ce qu'il repousse ce nerf un peu ?
Non.
Non, ça repousse
non,
pas.
Non. On essaye tout de suite, ou si c'est à la suite d'une infection virale et tout ça, de donner de la cortisone et tout ça. Mais si c'est lors d'un traumatisme ou s'il y a une tumeur, ça ne repousse pas. La fonction ne revient pas.
Il n'y a pas de maladie courante qui provoque ça?
Non.
Est-ce que, docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, l'odorat peut diminuer avec l'âge? Par exemple, on entend moins bien en vieillissant, peut-on moins bien sentir?
Non, pas que je sache. Ça peut être momentanément abîmé, tronqué l'odorat quand on a un rhume, hein, mais ça on sait que ça va passer parce que le nez est plein de glaire et tout ça, donc les molécules odorantes remontent pas jusqu'à ce bulbe olfactif.
Mais ça ne baisse pas.
Non, mais ça ne baisse pas. En tout cas, j'ai jamais eu de plainte dans ma carrière de gens qui avaient, avec l'âge, une diminution de l'odorat comme on peut avoir une diminution de la vue ou de l'ouïe.
C'est vraiment triste de perdre l'odorat parce qu'on se prive de choses délicieuses. En revanche, puisqu'on subit les inconvénients, alors profitons des avantages. C'est peut-être l'occasion d'aller travailler dans une tannerie, une porcherie. Qu'est-ce qu'il y a qui sent très mauvais encore ? Peut-être des égouts, en étant moins gêné que les autres. Je ne sais absolument pas quelle odeur il y a dans l'espace, mais ce que je sais, c'est que François Forget est planétologue, directeur de recherche au CNRS.
Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir pourquoi voit-on toujours le même côté de la Lune. Merci, au revoir.
François Forget, la question de Marion. Pourquoi voit-on toujours le même côté de la Lune ? J'ai un peu honte à mon âge, je me demande si elle a raison. La fameuse face cachée de la Lune, c'est vrai, on la voit jamais ?
Absolument. Et quand on réfléchit, c'est une coïncidence sidérante. Ça veut dire que la Lune qui fait le tour de la Terre en gros en 27 jours, elle tourne exactement à la même vitesse de manière à toujours nous présenter la même face. Alors évidemment, c'est pas une coïncidence. C'est l'évolution qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation étonnante. Alors attention, accrochez-vous, parce que c'est pour des raisons très très astucieuses et très subtiles, mais très très intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé au départ, quand la Lune s'est formée, et pendant longtemps, eh ben, elle tournait à sa propre vitesse, ce qui fait que les gens qui étaient là, il n'y avait personne. Hein. Mais ils auraient pu voir les différentes phases de la Lune.
S'il y avait eu des yeux sur Terre, ils auraient vu tous les côtés de la Lune. Il n'y en avait pas.
Il y avait peut-être des bactéries, mais je ne crois pas qu'ils regardaient la Lune. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, la Terre et la Lune ne sont quand même pas indépendantes dans l'espace. La Lune tourne autour de la Terre, elle tourne sur elle-même, et elle ressent la force de gravité de la Terre. Ce qu'on appelle même les forces de marée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Lune est attirée par la Terre, sinon elle irait ailleurs, ou elle tomberait pas comme il faut. Donc là, elle est en orbite. Lorsque la face de la Lune, qui est la plus proche de la Terre, est attirée par la Terre, elle est plus attirée que le reste de la planète. Et donc, ça crée un petit bourrelet. On connaît bien ça sur Terre, parce que la Lune a le même effet sur la Terre, et ça crée un petit bourrelet dans les océans. C'est ce qu'on appelle les marées. Alors il se passait la même chose sur la Lune, sauf qu'il n'y a pas d'océan. Donc qu'est-ce qui se déformait? C'est pas les océans, c'était juste la croûte, le sol, les cailloux quoi. Ça faisait un petit bourrelet. Et ce petit bourrelet, il se formait et il se rangeait pas tout de suite comme font les marées. Et donc ça faisait un petit bourrelet qui restait un petit moment sur le côté comme ça, vu de la Terre. Et comme ça faisait un petit bourrelet sur le côté, ça faisait une masse sur le côté. Et cette masse, elle était un petit peu plus attirée par la Terre que l'autre côté de la Lune. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que la Terre tirait un petit peu d'un côté de la Lune, ne tirait pas de l'autre côté. Résultat, année après année, elle freinait légèrement la rotation de la Lune. Et ça s'est arrêté que lorsque la Lune s'est trouvée tout d'un coup bloquée, exactement en montrant toujours le même côté. Ce qui fait qu'il n'y a plus de bourrelet qui se forme, plus rien ne bouge, elle est bloquée dans ce qu'on appelle dans le jargon en rotation synchrone. Alors c'est subtil, c'est pas évident à comprendre, mais c'est tellement quelque chose que tout le monde sait, presque, que bah, ça valait le coup de le raconter. Très bonne question.
Cette réponse, qui effectivement est fine, est à réécouter sur franceinter.fr.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. And you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Beaucoup d'entre vous, mes chatons, ont été conçus après que vos parents aient écouté ce titre des Turtles, Happy Together.
Bonjour, je m'appelle Olivia et j'aimerais savoir s'il est possible de trouver des pierres précieuses en se promenant dehors ou si on les trouve seulement dans les mines. Merci beaucoup.
Bonsoir Olivia. Patrick Voileau, vous êtes spécialiste des pierres précieuses. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire à Olivia ?
Olivia, j'ai envie de vous dire que les plus grandes mines de pierres précieuses, on les a trouvées d'une manière complètement fortuite. C'est-à-dire en trouvant une pierre par terre, justement, sur un chemin, dans un champ.
Ah oui.
Je peux vous citer des tas d'exemples. Par exemple, les mines de diamants d'Afrique du Sud qui ont produit pendant tout le XXe siècle, fin du XIXe et tout le XXe siècle, et qui produisent encore des quantités de diamants astronomiques avec de très gros diamants, ont été découvertes de cette manière-là. C'est-à-dire que, pour vous raconter la petite histoire, c'est à l'époque, les Boers habitaient cette région du monde et un jeune homme est allé chercher un morceau de bois dans une rivière pour déboucher un tuyau. Et il est tombé sur une pierre qu'il a ramassée et qu'il a ramenée à sa sœur parce qu'il trouvait qu'elle brillait. Et en fin de compte, un géologue est passé par là, il lui a demandé la pierre, etc. Il s'avérait que c'était un diamant qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'Eureka et qui est exposé en Afrique du Sud. Ce diamant a été le démarrage d'une invasion d'aventuriers, de chercheurs, etc. Incroyable. Si vous regardez d'anciennes photos, on voit des gens qui sont à quatre pattes en train de ramasser des diamants par terre. Un autre exemple, en Namibie, vous avez une plage qui est interdite au public maintenant parce qu'on trouvait des diamants sur la plage.
Dans le sable, quoi. Enfin,
dans les alluvions, parce que la rivière déversait. Et maintenant, on exploite le diamant avec d'énormes aspirateurs au fond de la mer, dans cette région-là.
Vous avez les
mines d'émeraude, par exemple, de Colombie. La dernière mine d'émeraude qui a été découverte, qui s'appelle la Pita, c'est un paysan qui labourait son champ et qui a sorti un cristal d'émeraude. Et là, on a commencé à creuser, etc.
Et il y en avait d'autres.
Des histoires comme ça, il y en a de multiples. Ouais. C'est-à-dire que c'est la recherche des pierres précieuses et la découverte de pierres précieuses, c'est jamais quelque chose de très scientifique. On arrive à scientifiquement à savoir qu'à tel endroit on peut trouver des choses, mais c'est souvent complètement fortuit.
Patrick Voileau, aussi, par hasard, sur mon chemin de promenade, il y a une pierre précieuse. Je ne le verrai pas forcément que c'est une pierre précieuse, parce qu'elle peut être pleine de sable, de terre, ne pas être taillée, ne pas briller. C'est pas évident.
Oui, absolument. Non, c'est tout à fait juste, parce que souvent les pierres peuvent être érodées. Quand elles sont cristallisées, elles sont assez jolies. Mais souvent, elles sont érodées par les rivières qui les ont brassées, emmenées, trimballées pendant des siècles. Vous pouvez passer effectivement à côté des pierres précieuses. En plus, le diamant, quand il n'est pas taillé, ce n'est pas quelque chose de très...
Pas terrible.
Oui, ce n'est pas une pierre qui brille beaucoup. C'est-à-dire, elle brille beaucoup quand elle est facetée, quand on a fait des facettes dessus et que le rayon de la lumière se reflète sur les facettes comme sur un miroir.
Attention, attention, notre répondeur ferme ce soir pour l'été, réouverture en septembre. En revanche, le podcast et la réécoute de ces petits bateaux sont toujours sur franceinter.fr. Cette émission est un travail d'équipe, la plus blonde au sens propre, Elisabeth Collet, la plus morphale Marjorie Dourvoucou, la plus râleuse Eliane Gérard, le plus foot addict Jean-Baptiste Audibert, la plus raisonnable Noël Vréhame.